quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
Le burn-out parental ou syndrome d'épuisement, devoir jongler entre le travail, les enfants, les amis, le couple, les activités extrascolaires, etc., etc., etc. Une journée étant composée seulement de 24 heures, pas facile pour les parents d'aujourd'hui d'assurer sans saturer. Ce syndrome toucherait en tout cas plus de 5% des parents et jusqu'à 34% des mères, selon une étude IFOP qui date de 2022. Il affecterait aussi bien les mamans que les papas, donc bien que les femmes soient davantage touchées en raison de leur charge mentale souvent plus lourde. Alors question toute simple aujourd'hui, comment éviter le burn-out parental? Réflexion avec mes deux invités du jour qui sont Anne Beson. Bonjour Anne.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir.
Merci.
Maman que vous êtes, vous avez également écrit quelques ouvrages. Vous êtes l'auteur de « J'aime être comme vous » qui date de 2020, si je ne me trompe pas, qui vous a fait connaître au fond, dans lequel vous exprimez toujours avec humour votre quotidien de maman et de femme, voilà, dans la vie de tous les jours. Vous avez également publié tout récemment le club des parents presque au bout du rouleau. Au bout du rouleau.
Le presque est très important.
C'est très important, hein, oui. On va en parler. Eh bien, merci d'être là.
Merci
d'être là. Et enfin, Juliette Allais. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Notre psy du jour.
C'est ça.
Psychopraticienne que vous êtes, spécialiste notamment des questions de place familiale. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la famille, sur les rêves, sur les relations de couple, sur la psychogénéalogie, etc., etc. On peut mentionner l'un de vos ouvrages en lien peut-être avec cette émission d'aujourd'hui, « Guérir des blessures familiales » qui a été réédité aux éditions J'ai lu. Effectivement, Juliette Allais, alors je ne sais pas où en sont les chiffres aujourd'hui en 2024. Ils ne doivent pas être tellement meilleurs qu'en 2022, on l'imagine, concernant le burn-out parental.
Alors, vraiment, je ne peux pas vous répondre.
D'accord, soyons précises.
Hein. Oui.
D'accord. Mais vous ressentez quoi, vous? Une espèce de...
Par rapport à ça, oui. Des gens qui viennent me voir, oui. j'en vois assez peu.
D'accord.
Oui, assez peu. Sur ce sujet-là, il y a peut-être
ah sur sujet. Ce sujet-là, mais vous n'êtes pas en train de dire qu'il y en a moins qu'avant ou pas en soi. D'accord.
Non. Après, je pense qu'il y a réellement un problème. Enfin, les parents cherchent à être parfaits. Je pense que de plus en plus, c'est un peu ça le mal du siècle.
Ouais. Hein,
je pense que c'est autour de ça qu'on pourra débattre. Et que donc, ça oblige effectivement à tout faire parfaitement, à tout caser dans une journée. Et en fait, c'est impossible. Donc, c'est toujours frustrant et on est toujours en échec. Et je pense que ça, c'est vraiment la question centrale.
Anne Beson, c'est ce que vous avez vécu il y a quelques années. Vous avez traversé ce burn-out sans, vous me disiez, avant de rentrer dans ce studio, vous en apercevoir que vous y étiez dans ce burn-out, le fameux burn-out.
Bah, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun à toutes les personnes qui font un burn-out, qu'ils soient parentales ou professionnelles d'ailleurs, c'est ce déni en fait. On ne se rend pas compte qu'on est en train de vivre un burn-out. Parce que c'est toujours difficile en fait, un burn-out. Moi je sais, je vais dire, bah voilà, j'ai craqué fin 2019, mais quand est-ce qu'il a commencé, je ne sais pas. Je pense qu'il a commencé, en fait, l'épuisement a commencé quand j'ai eu mon premier enfant en 2011. Et je ne me suis pas du tout écoutée. Et effectivement, il y a cette notion de perfectionnisme. Je pense que ça, c'est aussi un trait commun à beaucoup de personnes qui font un burn-out. C'est qu'on est des personnes perfectionnistes. On a envie de bien faire et même de faire parfaitement, ce qui est absolument impossible. On le sait, mais malheureusement, on essaye quand même de le faire. Et donc, on se met une pression monumentale pour être le parent parfait. Et effectivement, bah moi, je ne me suis pas rendu compte du tout que j'étais en train d'en faire un et que ça allait me mener là où ça m'a mené.
Pourquoi cette perfection? On en entend de plus en plus parler quand même, Juliette Allais. Ça, vous en entendez parler dans votre cabinet. Ça y est, on se retrouve.
Là, on se retrouve. Bah oui, parce que c'est une époque où bizarrement, on est un peu dans la toute-puissance. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, on peut réellement faire tout ce qu'on veut, et qu'on tient souvent très peu compte des limites, les limites planétaires, les limites personnelles. Donc on essaye d'être une superwoman,
ouais.
et ça donc ça occasionne beaucoup de dommages parce que ouais. Effectivement c'est une pression terrible. On a aussi, on pourrait, souvent les parents imaginent qu'il faut faire mieux que leurs parents, parce que souvent les parents qu'on a eus, les grands-parents, étaient très peu conscients de ce que ça représentait une vraie éducation, dans la parole, dans le lien. Il y a plein de choses qui leur passaient au-dessus parce que c'était pas l'époque. Aujourd'hui, on est très soucieux de ça, et c'est bien parce que c'est un réel progrès. Ouais. Mais du coup, on est dans le bienverse. On chercherait à ce que l'enfant ne souffre pas, ouais, qu'il soit parfaitement élevé comme dans du coton, sans aucun manque. Et on fait un contresens, c'est-à-dire qu'en fait, le manque, c'est ce qui permet aussi à l'enfant de se construire. C'est très important que ça existe. Donc, il va falloir lâcher du lest à un moment pour qu'il soit confronté à la difficulté, au manque du parent. Non, le parent ne sera pas toujours là, tout le temps, comme une espèce de biberon éternel. Ouais. Et il faut que le parent accepte ça. C'est-à-dire qu'il travaille aussi sur sa position, sur sa posture, et qu'il accepte de lâcher cet idéal, ce fantasme qui pourrait être un parent, cette espèce de parent idéal qu'il n'a pas eu et qu'il n'aura jamais.
C'est très intéressant, merci Juliette Allais, c'est extrêmement clair ce que vous évoquez là. Alors, je ne dis pas que vous êtes la seule, puisqu'on le dit de plus en plus, maintenant vous avez des confrères et des consoeurs qui commencent à en parler de cela justement.
Oui,
hein.
Oui.
Mais d'où ça vient? Pourquoi nous les parents? Parce que je me mets dedans, hein, je suis concernée.
Oui,
hein,
oui,
okay,
bien sûr.
J'ai une fille de 3 ans, ouais, donc je suis dedans. Pourquoi, ouais, est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi on a envie que nos enfants souffrent pas? Pourquoi on veut la ouate dont vous avez parlé? Pourquoi, ouais, pourquoi
parce
on est comme
que
ça?
Déjà, souvent parce qu'on a souffert soi-même et qu'on a de très mauvais souvenirs. Même si nos parents n'étaient pas des parents de mauvais parents, mais on a tous l'impression d'avoir une enfance qui aurait pu être bien mieux qu'elle n'a été, et que donc c'est à nous de réparer. Et ça, c'est à la fois vrai, on peut faire mieux, mais mieux, ça ne veut pas dire éviter à l'enfant de se confronter à la difficulté, ou comme c'est une espèce de fantasme que plus on est protégé, mieux ça vaut. En fait, c'est totalement faux. Et c'est vraiment là, c'est sur ce contresens-là que beaucoup de choses se construisent dans cette histoire de perfection et de recherche de la perfection.
Ouais. Vous retrouvez dans cette description, Anne, ou pas ?
Oui, moi j'apporterais quand même un bémol par rapport à ça. Ouais. Alors oui, effectivement, je pense qu'on a chacun vécu des choses. Moi, je me reconnais dans ça, par exemple, donc j'ai voulu compenser certaines choses. Mais il y a aussi, je pense, la pression quand même de la société. Enfin, tout ce qui est éducation bienveillante, positive, on en entend parler de plus en plus. Il y a cette pression-là. Et moi, je dis toujours, et peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'ai tort, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus difficile d'élever des enfants maintenant qu'avant. Alors, le avant étant à définir.
On se posait moins de questions.
Ah oui, moi, je pense. Ouais. Moi, je pense que, bah, par exemple, moi, je vois mes parents. Voilà, moi, je suis née dans les années 80. J'étais enfant dans les années 80. Bah, franchement, alors, je ne veux pas dire qu'on était presque comme un meuble, non, mais il y avait nettement moins de pression, il n'y avait pas tout ça sur l'éducation positive et bienveillante. Maintenant, c'est vrai
on s'arrache
que...
les cheveux pour un détail.
Complètement,
quoi.
Enfin, je veux dire, moi, il y a plein de parents qui me disent « Oh là là, moi, ça me stresse parce que je n'ai pas donné à manger bio quand ils étaient enfants, qu'est-ce que ça va donner ?» On entend parler des
écrans. À 18 mois, il parle pas.
Mais c'est ça, comment ça se
que
fait
se passe-t-il,
que se passe-t-il? Il va, ça y est, sa vie est foutue. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que ça nous met une pression énorme. Et je pense que ça aussi, c'est un peu à la société de se rendre compte de ça, quoi. Il n'y a pas que au niveau de la personnalité de chaque personne. Enfin, peut-être que je me trompe, mais voilà, je pense qu'il y a quand même... On est dans une société qui est quand même assez difficile, anxiogène. C'est pas évident en fait de naviguer et d'être bon parent. Et je mets des guillemets en disant qu'est-ce que ça veut dire être bon parent.
Quel âge ont vos enfants?
Alors maintenant, ils ont 13 ans et 10 ans.
Ouais, donc ils sont quand même encore à la maison. Voilà, ils ont plus
c'est
2-3 ans.
C'est
mais...
différent, voilà, c'est pas la même logistique. Est-ce que je ferais un burn-out maintenant si j'étais pas passée par un burn-out? Peut-être pas, parce que c'est pas la même logistique. J'arrive maintenant à avoir des moments à moi. Voilà, ça, je vous donne le message.
Par la force des choses.
Voilà,
hein.
3 ans, c'est ça. Voici. Voilà, je vous donne ce message d'espoir de vous dire après.
Bah,
c'est même, on est dans l'effet inverse, puisque quand ils sont ados, ils sont enfermés dans leur chambre. Mais... Donc ça, on est dans l'effet inverse. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est que ça évolue, voilà. Mais quand ils sont petits, bah, c'est vrai que moi, j'ai fait cette erreur de ne pas prendre du temps pour moi, par exemple.
Est-ce que c'est... Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Comment ça a commencé, au fond, avant qu'on se sépare une première fois musicalement? Quel a été le premier, maintenant, avec du recul, au fond, quel a été le premier signe annonciateur ou le premier symptôme, micro-symptôme ?
Le premier symptôme, c'est une fatigue qui devient permanente, en fait.
Vous le réveillez le matin fatigué ?
Ouais, c'est ça. Bah, tout le temps, en fait, on est fatigué tout le temps. Oui, c'est ce que j'allais dire. À la limite, est-ce que ça change ?
Les papas, peut-être aussi.
Non, pas tout.
Je vais bien vous voir, il y a un problème.
Je crois qu'on a un problème, en fait. Non, mais il y a cette fatigue, en fait, et qui très vite est corrélée à une tristesse. Voilà, il y a une lassitude,
d'accord.
Une tristesse.
Tristesse.
Ouais, une tristesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et une lassitude, c'est-à-dire que on n'a plus envie, en fait, presque de passer du temps avec ses enfants.
Et ça, c'est... Ah oui, d'accord.
Ah oui, on arrive à ce moment-là, même après, quand c'est crescendo, on arrive à un stress avant de passer du temps avec ses enfants. C'est-à-dire que moi, je stressais le mardi soir, avant le mercredi, jour où j'étais avec eux tout le temps, en fait. Parce que c'est ça aussi l'erreur, c'est que j'ai calé mon emploi du temps sur... leur emploi du temps sur mon emploi du temps.
C'est donc... pas forcément une erreur, ça dépend.
Ah si, pour moi...
Ah oui, d'accord, ouais, pour vous, c'était ça.
Ouais, pour moi, c'est vraiment... Ça, on en parlera certainement, mais les conseils aux parents, c'est un des conseils que je donne, c'est... Enfin, il faut vraiment se garder du temps pour soi. Et moi, je l'ai pas fait. En fait, voilà, je l'ai pas fait parce que, comme on disait tout à l'heure, la mère parfaite, il fallait...
C'est l'enfant qui compte d'abord.
Voilà, l'enfant qui compte d'abord. Moi, j'étais enseignante à l'époque, donc enseignante, on a beaucoup de temps, mais je sais qu'il y a plein de mamans qui sont, par exemple, à temps partiel. Pareil, elles font la même chose, c'est-à-dire qu'elles disent, moi, je suis à temps partiel.
Le temps libre, c'est les enfants.
Voilà, donc je m'occupe des enfants. Il y a aussi cette notion de la société qui dit que les femmes, on s'occupe des autres.
Ouais.
C'est presque naturel, en fait, de
s'occuper. Mais pourquoi est-ce que... Alors, question que les psys détestent, mais est-ce que c'est... Ah, mieux avant, Juliette. Mais on s'occupait peut-être même certainement davantage des enfants, mais après, est-ce qu'on travaillait autant Je sais, comment vous analysez les choses?
C'est complexe, parce que avant... je pense qu'on peut pas dire c'était mieux avant.
Non.
C'était ni plus facile, ni plus difficile. C'est pas les mêmes difficultés, c'est pas les mêmes enjeux. C'est pour ça qu'on est un peu perdu. Il y a une grosse injonction collective autour du rôle des parents, effectivement, l'éducation positive qui induit beaucoup de parents en erreur aussi. C'est différent aujourd'hui. On n'a plus les mêmes difficultés qu'avant. Et effectivement, on a aussi oublié que... Chaque parent a aussi le droit d'éprouver du découragement, de la lassitude, du ras-le-bol d'être parent. Ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Et donc, on a tendance à se plier à cette image où il faudrait éradiquer tout sentiment négatif pour n'être qu'un parent positif, bienveillant. Ça n'existe pas. Il faut aussi relâcher la pression là-dessus, dédramatiser, on a le droit d'en avoir marre, et ça permet de craquer de temps en temps, et puis donc de relâcher la pression de manière régulière, au lieu d'être dans, encore une fois, cet idéal qui ne correspond à aucune réalité, en fait.
Mais par contre, si je peux me permettre, c'est encore mal vu de dire qu'on en a marre. Enfin, moi, je me revois en train de dire, mais en fait, j'en peux plus. Mes enfants de dire, là, j'en peux plus d'eux et tout. Oui. Et de voir les yeux comme ça, de dire, mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi? Mais tu oses dire ça? Et je me suis retrouvée face à ça, en fait, de me dire, alors, est-ce que je suis un monstre? Est-ce que je suis une mauvaise mère? Parce qu'il y a quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je trouve qu'il y a quand même ce tabou. Alors, ça évolue, on en parle de plus en plus. Ouais, on en parle de
grâce
plus en plus,
réseau,
moi, je trouve.
Ça commence un peu à sortir.
Mais il y a quand même, on sent quand même que c'est un peu tabou. Faut quand même savoir à qui on en parle, comment on amène.
Ce qu'on vous répond, c'est en gros, c'est quand même important d'être avec tes enfants.
Soit on se fait culpabiliser, donc en disant, quand même, faut pas dire ça.
Qu'est-ce que vous redoutiez finalement? Qu'est-ce que vous redoutiez? Par exemple, le mercredi, qu'est-ce qui vous faisait peur concrètement d'être avec vos enfants?
En fait, c'est parce que j'étais tellement fatiguée et après c'est devenu un épuisement qu'en fait, je voulais juste un peu de temps pour moi, en fait.
Ouais.
Je voulais juste souffler, je voulais juste me reposer. Mais... comme j'étais dans cette culpabilité, parce que ça, je ne sais pas si on l'a prononcé ce mot depuis le début, mais alors culpabilité, c'est le mot du burn-out. Donc comme j'étais dans cette culpabilité de me dire, mais si je les laisse, à la garderie, non, je ne peux pas. Puis comme je disais, j'étais enseignante, mais peu importe. Mais voilà, le mercredi, c'était pour eux, en fait.
Ouais.
Enfin, vous voyez, donc moi, si j'avais mon mercredi et qu'en plus je les laissais à la garderie, mais quelle mère j'allais être.
Ignoble.
Voilà. Je ne suis pas une
indigne.
Bonne mère. Enfin, voilà, mère indigne. Donc, c'est cette pression-là. Donc, c'est ce que je ressentais. C'était juste, en fait, la fatigue, de l'épuisement et de me dire, ça va être encore... Puis, chaque enfant est différent. Faut pas se mentir. Il y a des enfants... C'était du sport, de garçon, c'était du sport, comme ça peut être, hein, voilà, pas méchant, mais du sport. Donc c'était difficile.
Et l'effet déclencheur, ça a été quoi? Le fait que voilà, vous avez touché le fond de la piscine, si je puis dire, et vous êtes remonté. Si vous êtes là aujourd'hui pour témoigner, c'est que...
En fait, j'ai fait un craquage, comme je pense le burn-out se matérialise souvent.
C'est-à-dire
Un jour, je suis allée au travail, et donc j'avais mon bureau, et donc j'ai dit bonjour aux gens, bonjour, et puis à un moment donné, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà, donc j'arrivais plus à respirer, j'ai cru que j'allais mourir parce que mon cœur s'est emballé. Enfin, la vraie crise d'angoisse que je n'avais jamais faite et que je ne souhaite à personne. Je suis rentrée chez moi, je ne sais pas comment, je n'arrivais plus à respirer. Enfin, voilà, et là j'ai dit, je peux plus quoi. Donc, c'est ce que je vous disais au début, avant qu'on commence l'émission, mais c'était moi ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment été dans le déni très longtemps, c'est que je me retrouvais pas dans les définitions de burn-out, que ce soit burn-out parental. Ou burn-out professionnel. Mmh. Burn-out parental, c'était à chaque fois des exemples, soit de mères célibataires ou familles nombreuses. Enfin, voilà, je me disais, c'est pas moi. Moi, mon mari est là. Certes, il rentre tard le soir, mais il est là. J'ai que deux enfants. Enfin, vous voyez, je me disais, soit burn-out professionnel, pareil, c'était des gens qui faisaient 50 heures par semaine. Moi, j'étais prof. Mon prof en burn-out à l'époque.
Comment te plaindre ?
Je ne pouvais pas me plaindre. C'est pas possible. Plein de vacances. Donc ça, c'est ce que je me racontais, hein. C'était vraiment ce que je me racontais. Donc je me retrouvais pas, donc quand on me disait, mais là, tu vas pas bien, alors on me disait pas forcément que j'étais en burn-out, mais on me disait, ouais, là, tu vas pas bien, je suis passée par trois médecins qui me disaient, là, faut vous arrêter, alors je me suis arrêtée deux semaines. Ça me fait sourire maintenant. Puis j'ai dit, c'est bon. Et je suis repartie.
Ah oui, ok, d'accord.
Moi, je suis très... Voilà, hein, c'est... Et puis surtout, il ne faut pas s'arrêter. Il faut y aller, il faut continuer. Il y a ce côté-là aussi, hein, chez les personnes qui font des burn-out. C'est qu'on est consciencieux. Donc, on y va, on continue. Et puis à un moment donné, j'ai craqué. Ouais. Et là, le médecin du travail m'a dit, écoutez... Ouais, vous voulez... Parce que pareil, je disais, non, je veux continuer, mais me mettez pas en arrêt, je continue. Elle me dit, bonne petite élève. Et elle me dit, vous voulez continuer, mais vous allez être à l'hôpital et vos enfants, vous pourrez plus vous en occuper. Et
analyse de Juliette Allais, juste après les enfants d'Isabelle Aubray, s'il vous plaît. À tout de suite, mesdames.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Dans les rues, ils dansent dans les villes avec des cris aigus et des rires d'oiseaux. Ils mordent dans les fruits avec des dents fragiles. Ils rêvent dans la nuit de fleurs et de chevaux. Les enfants, ils ont les genoux tendres aux pierres des chemins et des petites mains et des lèvres si douces et des paupières bleues. Ils ont de gros chagrins quand tout ne va pas bien. Que la vie n'est pas douce, les enfants. Ils grandissent un jour, ils bâtissent des villes, ils se disent monsieur, ils ont l'air importants, mais ils meurent d'amour et quand les mandolines leur déchirent le cœur, ils pleurent comme autant des enfants. Apprennent l'argent, ils partent pour la guerre, ils s'en vont dans le ciel, ils inventent demain, mais comme les enfants, c'est pour une bergère qu'ils commencent à matin à bâtir leur maison. Les enfants, ils marchent dans la vie, ils ont des joies, des peines qu'ils partagent à deux pour mieux passer le temps, ils ont la même voix pour se dire je t'aime, ils ont le même sang quand ils ont un enfant. Les enfants, ils prennent le chemin que prennent tous les grands, loin des jardins en fleurs, des herbes et des bêtes, ils s'en vont pour l'hiver, ils quittent le printemps, mais quand ils sont dans l'ombre, ils voient dans la lumière leurs enfants.
petits anges, petits monstres, les enfants sur Radio Notre-Dame et RCF à l'honneur, mais pas seulement les parents et les mamans en particulier, mais les parents, puisqu'aujourd'hui on en parle et on questionne ce burn-out parental. Comment l'éviter précisément? Nous en parlons avec mes deux invités du jour qui sont Juliette Allais, psychopraticienne, spécialiste des questions familiales liées à la famille, aux blessures familiales. C'est d'ailleurs le titre de l'un de ses ouvrages, Guérir des blessures familiales, chez J'ai lu. Anne Bézon est également avec nous, J'aimerais être comme vous. Et puis le petit dernier, le club des parents presque au bout du rouleau. Un ensemble, une compilation de témoignages. C'est sympa d'avoir effectivement un recul sur votre histoire, parce qu'on se dit qu'on est passé, ce que je vous disais avant d'entrer dans le studio, Anne Bézon. C'est toujours très plaisant de se dire qu'on n'est pas les seuls à vivre ces scènes de monde dans les supermarchés, ces fatigues interminables. Effectivement, quand on débute, si je puis dire, dans le job, dans le rôle de parent, hein, pour l'éducation, éduquer nos enfants entre 0 et 3 ans en particulier, mais on croit qu'on a tout compris à 3 ans, et puis hop, autre chose se joue à partir de 3 ans, peut-être même à 18 ans. Bref, on parle aujourd'hui de ce sujet avec mes deux invités. Et Juliette Allais, nous attendons avec impatience votre brin d'analyse.
Mon verdict.
Voilà, verdict de docteur Juliette Allais.
Oui, oui, oui. Bon, je me disais qu'on a... C'est vrai qu'il y a une très grande injonction sociétale, mais c'est aussi notre rôle à chacun de résister à ça, de s'affranchir de toutes ces injonctions et de voir pourquoi et comment elles pèsent sur nous. Et c'est surtout, ça commence en fait à notre place, à partir de notre place dans la famille, quelle place on a eue. Quelles étaient les attentes de nos parents? Quels sont les modèles parentaux qu'on a eus aussi? Est-ce que nos parents étaient des travailleurs acharnés, qui étaient aussi des perfectionnistes ou pas? Tout ça va créer des configurations qui vont pousser certaines personnes plus facilement dans le burn-out. Mais là aussi, c'est à chacun de transformer. Hein. Ouais. On n'est pas obligé de subir sa famille non plus.
Est-ce que très souvent, on les imite de façon extrêmement et fortement inconsciente?
Oui, c'est toujours... Pas toujours, mais c'est souvent, très souvent, hein. Il y a une grosse partie inconsciente. Donc, c'est un peu, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc,
on a connu que ça, donc on fait pareil.
On fait pareil, ou on répare, on fait l'opposé, donc on compense. Et ça nous place à un endroit où on n'a aucun recul sur ce qu'on est en train de vivre. Et c'est ça qui fait qu'on va dans le décor, parce qu'il faut pouvoir se poser des questions. Toutes les questions sont autorisées. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre? Est-ce que j'ai le droit d'en avoir marre? Est-ce que je fais comme ma mère? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller mieux? Est-ce que mon mari m'aide? Est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que je peux demander de l'aide? Tout ça, c'est... On est un être humain. On est juste un humain. Ouais. Donc, il faut respecter ça, déjà avant tout. Et ça ira mieux.
Pareil, la question de... On va pas faire la psychanalyse d'Anne, mais...
Il y aurait du travail. Il y a du travail. Je vous préviens. Je vous préviens, on est là pour un bon bout de temps.
Et moi donc, chère amie. Anne, par exemple, non mais juste sur cette question, vous avez l'impression d'avoir répété quelque chose, par exemple, vous concernant, j'avais réalisé ça ou pas ?
Je pense que je n'ai pas répété, j'ai essayé de réparer.
D'accord. Très basiquement, c'est ça qu'on peut dire.
Hein. Ah oui,
ça
oui,
s'applique
oui.
bien. Alors moi, il y a une question, vous voyez, dès le début de votre livre, quand vous dites, vous parlez des trois sentiments que l'on découvre quand on devient parent. Et est-ce qu'on va demander à Juliette Allais si ce n'est pas le fin mot de l'histoire, en tout cas le nœud de toute problématique liée à la surcharge et aux espèces d'auto-injonctions, à tous les vœux pieux qu'on se donne en fait. Hein. On exige tellement de soi quand on a des enfants. Vous dites, on a toutes et tous entendu la phrase « je pourrais mourir pour quelqu'un », peut-être même que vous l'avez dite à votre petite amie, voilà, etc. Mais tant qu'on n'a pas eu d'enfant, on ne sait pas ce que cette phrase veut dire. Votre enfant naît, vous plongez vos yeux dans les siens, et là, vous savez. Vous savez que ce que vous avez dit à Kevin ou à Brenda, vous ne le pensiez pas. Vous comprenez ce que le mot « veut », « amour » veut réellement dire. Oui, pour ce petit être tout fripé que vous tenez contre votre cœur, vous pouvez mourir. Oui, vous savez que si là, tout de suite, on vous demandait de choisir entre sauver votre peau et la sienne, vous n'hésiteriez pas une neuroseconde. Mais c'est une telle... En fait, c'est à la fois très, peut-être très beau, théoriquement c'est très beau, enfin, même plus que théoriquement, Juliette Allais, mais c'est étourdissant, c'est presque oui. fou de se dire ça aussi, non ?
Oui, et puis je pense que pas que ce soit vrai. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que... Enfin, Beaucoup de psychanalystes et de psychothérapeutes, enfin les gens qui ont fait des recherches sur la maternité, se sont aperçus que la maternité, c'était aussi un état ambivalent, qu'on a, on était traversé par toutes sortes de pulsions, y compris des pulsions destructrices, en fait.
C'est-à-dire ?
Et ben, en fait, on peut avoir envie d'étouffer son enfant, on passe pas à l'acte, mais, ou de s'en débarrasser, ou de le jeter par la fenêtre. Ces pulsions-là, elles font partie de l'être humain. Et si on pense qu'on n'est que amour, ben, on fait fausse route, parce que du coup, tout ce qu'on éprouve et qui ne va pas aller dans ce sens-là va nous angoisser terriblement et nous mettre en défaut. Et il faut pouvoir rassurer les mères en leur disant, écoutez, vous pouvez fantasmer des choses, c'est comme ça que vous ne passerez pas à l'acte. Et vous êtes, encore une fois, un être humain traversé par toutes sortes de pulsions. C'est vrai dans la nature, mais c'est vrai aussi pour les animaux, mais c'est vrai aussi pour nous. Donc, dédramatisons ça, accueillons-nous là où on est, et puis faisons de notre mieux. C'est Winnicott qui est un psychothérapeute qui date un peu maintenant de quelques siècles, enfin pas quelques siècles,
quelques dizaines d'années,
n'importe quoi, mais et qui disait une mère suffisamment bonne, ça suffit en fait.
Ouais. Donc suffit. Un petit peu mauvaise aussi, c'est ça que ça veut
un
dire.
Un petit peu mauvaise, quelqu'un d'imparfait que l'enfant pourra quitter. Qui ne va pas représenter une espèce de mère Teresa qui se sacrifie pour lui et qui fait qu'il peut ne faire qu'être attaché.
Le laisser partir aussi. C'est ça qui se passe. Aussi. C'est qu'inconsciemment, peut-être, on veut que l'enfant soit toujours attaché à nous.
Possiblement. Si on fait tout, bah, il peut aussi rester avec nous jusqu'à la fin. Et donc, tout ça, ce sont des choses inconscientes qui traversent tout le monde. Donc, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Mais il faut en être conscient pour pouvoir s'en détacher et avancer de manière plus pertinente, plus juste. La parentalité, ça se construit au jour le jour. On fait beaucoup d'erreurs, on répare, on fait un peu comme on peut. Mais il faut surtout rester dans l'humilité, je pense, et sortir de cette espèce d'injonction à la perfection et à la toute-puissance.
En fait, c'est une forme, parce que, ouais, c'est ça, c'est une forme déguisée de toute-puissance. Déguisée, parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte de prime abord. Ma pauvre Anne.
Alors, est-ce que j'ai vécu ça? Bon, évidemment, c'est ma psychanalyse. Mais non, mais ça me fait du bien. Mais par contre, moi, pour rebondir sur ce côté, effectivement, de la perfection, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et moi, ce que je dis aux parents maintenant, voilà, qui malheureusement sont en train de vivre ça ou pensent le vivre, sont au bout du rouleau, ce côté de vouloir être parfait, si on retourne, parce que comme on est, comme vous disiez, des êtres ambivalents, mais on est faire au mieux pour ses enfants, et si on retourne en disant, bah, justement, c'est en étant imparfait qu'on leur fait le plus beau cadeau, bah, je trouve que ça permet de déculpabiliser et de se dire, ah, bon, ok, si c'est pour son bien-être, vous voyez ce que je veux dire, il y a ce côté où ça aide, en fait, les parents à se dire, ah bah ok, d'accord, ok. Et effectivement, déjà, il y a ce côté d'être parfait. Alors, c'est impossible, hein, on le rappelle, mais si on essaie de l'être et qu'on a cet aspect, on leur fait pas un cadeau, parce que eux, ça veut dire que si à chaque fois qu'ils vont se tromper, se planter, avoir un échec, ils vont dire, ah bah mon Dieu, je fais pas comme ma mère qui était parfaite, etc. Si jamais ils arrivent à faire cette image. Donc finalement, on leur fait pas un cadeau. Donc ça permet déjà, je trouve, de dédramatiser et de prendre du recul.
Moi, j'ai une question sur vos enfants. Est-ce que vous avez observé un changement de comportement entre avant et pendant le burn-out et après ?
Oui, complètement.
Alors, allez-y.
Bah, pendant le
burn-out. Ça va peut-être nous convaincre.
Ah ouais, alors là, ça, je peux vous convaincre. Pendant le burn-out, et voilà, au fur et à mesure que l'épuisement s'installait, bah, j'étais pas bien, donc je criais beaucoup. J'ai pas pleuré devant eux. Je regarde quand même en l'air. Non, je crois que j'ai pas pleuré devant eux. Mais en tout cas, j'étais pas bien. Enfin, voilà, ils avaient pas une mère épanouie.
Un peu agressif, quoi.
Ah, j'étais agressive, j'étais au mieux triste, voilà, énervée. Enfin, ce qui veut pas dire que je le suis pas encore maintenant. Bon, mais en tout cas, voilà, c'était un peu permanent. J'étais pas épanouie, j'étais pas bien dans ma vie. Donc forcément, j'étais pas épanouie. Et effectivement, après le burn-out, donc quand j'ai commencé cette reconstruction et voilà, que j'ai pris
du temps. Prendre du temps pour vous, donc finalement vous l'avez pris ce temps,
ouais,
le mercredi.
Prendre du temps pour moi.
Ou pas.
Le mercredi, c'est encore un peu difficile, le mercredi. Le mercredi est venu un peu après. Voilà. Non, mais oui, j'ai pris du temps pour moi. Et puis j'ai fait, en plus, j'ai changé de travail. Donc voilà, l'épanouissement est aussi passé par plein de choses. Et oui, complètement. Enfin, là, il n'y a pas photo. Et mes enfants vont mieux, mes enfants vont bien. Je rassure, hein, quand même.
Vous ne voyez pas. Non, mais voilà, maintenant ils sont un peu plus grands, mais ils ne vous voyaient pas forcément autant qu'auparavant. mais c'est ça.
Oui,
c'est,
bah, ils me voient. En fait, maintenant, ils me voient moins. Je passe moins de temps avec eux, mais j'ai compris que je passe du temps de qualité.
D'accord.
Voilà.
Ouais. C'est vrai qu'on le voit partout, mais il faut l'appliquer, quoi.
C'est exactement ça, en fait.
Il faut sauter un petit peu dans le vide quand on n'est pas habitué à ça.
Et avant, c'était tout le temps, comme je vous disais, mon emploi du temps était calé sur leur emploi du temps. Donc, en fait, j'étais pratiquement tout le temps avec eux. Voilà. Donc, j'étais contente. Je me disais, c'est bon, je coche la case de la bonne mère, je suis avec eux. Voilà. Ils ne font pas trop de garderie, ils font manière. Mais en fait, est-ce que c'était du temps de qualité? Non, pas forcément.
Ouais. À Juliette, ça
faudrait,
vous parle.
Oui, il faudrait éduquer les parents, je pense, très, très tôt, leur dire ce qui est important et ce qui n'est pas obligatoire. Je pense que ça leur permettrait de mieux comprendre la marge de manœuvre qu'ils ont. Parce que souvent, ils arrivent avec des idées qui sont pas justes, pas réalistes. Donc, moi, je suis pour l'école des parents, une espèce d'école des parents.
Bien bonne idée, ça, Juliette.
Où on expliquerait ce qui est important, c'est-à-dire le respect, la parole, parler vrai à son enfant, le voir, le regarder, le rejoindre, mais pas forcément être tout le temps avec lui, à le protéger de tout, ni à
tout faire avec. Ça, c'est une vraie tentation. N'empêche que c'est un vrai sujet en quête de sens, ça.
Ça, c'est terrible, parce que c'est exactement ce que vous disiez, Anne, c'est tout sauf lui faire un cadeau.
Qu'est-ce que ça lui fait?
Ça lui donne l'impression qu'il ne va jamais se débrouiller tout seul. En fait, il faut faire confiance à nos enfants qui traverseront le manque, qui traverseront la difficulté et leur montrer aussi qu'on est capable de faire ça, c'est-à-dire se confronter à des choses difficiles en étant confiant et leur faire confiance. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, je pense.
Ouais, mais c'est pas une mince affaire, hein, quand on.
Ah, mais non, c'est pas si compliqué que ça.
C'est vrai?
C'est juste une question d'état d'esprit, vraiment. Et moi, je suis sûre qu'on peut tous changer à ce niveau-là, c'est pas si compliqué.
En fait, il faut prendre conscience, j'ai l'impression que c'est la première phase, quand on est vraiment au bout du rouleau, c'est de conscientiser un petit peu, de prendre du recul, ce que vous disiez tout à l'heure, toutes les deux, sur ce qu'on est en train de se faire vivre, en fait, hein, et donc de faire vivre à nos enfants, malheureusement et heureusement, parce qu'on voit après, quand on fait ce travail, que nos enfants, comme par là, on les voit peut-être moins, mais ils vont mieux, quoi. Et nous aussi.
Eux, ils nous demandent pas ça, hein, en fait. Ils nous demandent pas cette ils nous demandent pas d'être parfaits. Ils nous demandent d'être vrais, confiants, des êtres humains pertinents. Mais ils nous demandent pas d'être là tout le temps, à leur préparer un goûter tous les matins. Alors ça peut être sympa aussi, hein. Il y a plein de choses sympas à partager. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est sentir que tout ça sont des injonctions aussi d'un autre siècle qui date aussi d'une certaine représentation de la mère, de la femme au foyer.
Je crains que vous ayez raison, Juliette. Hein.
D'une espèce de société machiste où effectivement la femme est dévouée à ses enfants. Ça, qui invente ça et pourquoi faire? Donc c'est important aussi de remettre ça en question et de se dire mais qu'est-ce qui est important dans le rapport parent-enfant? C'est de les affranchir aussi de tout ce qui va les entraver, c'est leur permettre de devenir des individus libres, autonomes, confiants, qui respectent le vivant.
Ouais.
Le reste,
comme disait Caroline Goldman, vous n'êtes pas obligé d'apprécier Caroline Goldman ni tout ce qu'elle transmet.
Moi, j'aime beaucoup.
La prochaine fois, on organisera un plateau géant avec tous les amis de Caroline Goldman. Effectivement, elle disait qu'il y avait dans son cabinet, ça c'était assez intéressant parce que je me rendais pas compte, je réalisais pas cela. Deux phénomènes, soit des parents complètement indifférents, soit ce que vous dites, des parents complètement hélicoptères, qui veulent tout contrôler, qui veulent que tout soit parfait, et qu'il fallait trouver vraiment, vraiment un équilibre entre les deux. Voilà, la mission d'aujourd'hui, c'était celle-là, ce que vous partagez,
oui,
Juliette et Anne.
Oui,
oui, c'est ça.
Le juste milieu.
Ouais. C'est ça, hein,
oui,
Anne.
Oui, un juste milieu.
Vous n'êtes pas non plus indifférente, vous n'êtes pas d'un camp.
Non,
autre,
je ne suis pas tombée dans l'autre extrême de.
Heureusement,
je les
d'ailleurs,
laisse se dérouiller. Sinon, ça serait. Non, voilà. Ils ne sont pas. Voilà, mais c'est ça, c'est trouver un juste milieu. Moi, je dirais que ce qui est important, c'est vraiment le conseil que je donne aux jeunes parents, aux futurs parents, c'est d'être conscient de ses ressources. C'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est. Alors, que ce soit des ressources externes ou internes, c'est-à-dire externes, c'est de dire, par exemple, qui j'ai dans mon entourage pour m'aider. si j'ai personne, ben, est-ce que j'ai des ressources financières pour avoir une babysitter de temps en temps, voilà. Et puis les ressources internes, c'est de se dire, ben, moi, de quoi j'ai besoin. Et moi, par exemple, j'ai totalement nié le fait que, par exemple, ben, je me fatigue un peu plus vite que d'autres personnes. Voilà, c'est comme ça. J'ai besoin d'avoir des temps de solitude. Ça, je l'ai complètement nié. Et donc, je suis partie dans la maternité en niant tout ça, voilà, et en ignorant tout
en
ça.
En mode survie.
En mode survie, en mode je fonce, et puis voilà. Alors que de prendre le temps de voir de quelles ressources on dispose, je trouve que ça change beaucoup de choses.
Ouais. Bien écoutez, je vous propose de nous respirer quelques instants, petit temps de pause, n'est-ce pas? Pas de solitude, pas tout à fait. Your Mother Should, par les Beatles, tout simplement. À tout de suite.
En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
Ce petit hommage aux mamans, comment éviter aujourd'hui le burn-out parental. C'est papa et maman qui sont concernés. Effectivement, on en parlait juste avant, on ne va pas développer parce qu'on a déjà consacré, nous y consacrerons d'autres émissions, promis, sur tout ce qui est impact de la maternité sur le couple. Hein. Vous le savez, nous, ça nous intéresse toujours dans Enquête de sens. Juliette Allais est avec nous, psychopraticienne, qui a écrit notamment sur les blessures familiales, guérir des blessures familiales chez J'ai lu. Elle qui est donc une spécialiste de la question de la place familiale. Comment éviter le burn-out parental? On en parle également avec Anne Beson, qui est écrivaine, qui a précédemment écrit « J'aimerais être comme vous » et le petit dernier, eh bien, c'est fait. Elle est comme nous, et elle l'assume. Et on est comme elle, le club des parents presque au bout du rouleau. Effectivement, Juliette Allais et Anne Beson, on se rend compte à quel point aujourd'hui on est vraiment... Alors que c'est très curieux paradoxalement, parce qu'on est invité à être authentique, à être soi, à de plus en plus à dire ce qu'on vit vraiment pour de vrai derrière les sourires... Il y a quelques années, on disait Fridon, maintenant on dira les sourires Insta. Eh bien, oui, les choses ne sont pas du tout telles qu'on peut les photographier. Voilà, les belles photos de vacances, tout. Et ça, c'est vrai qu'encore, ça augmente d'autant le réservoir à culpabilité. On se dit, mais je ne serai jamais comme ces parents parfaits, incroyables, qui sont toujours hyper smileys sur leurs photos du quotidien, de vacances. Les apparts sont toujours hyper rangés, alors qu'en fait, tout est fourré derrière la caméra, dans un placard. Enfin bref, on peut imaginer ça. Mais...
Bah, d'ailleurs, ma petite anecdote, pénible, hein. J'avais participé, on était venu me filmer pour un documentaire sur France 5, bref. Et donc, forcément, avant qu'ils arrivent, j'avais tout bien rangé. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible, à chaque fois qu'on arrive chez les gens sur ce sujet, ils ont tout bien rangé. Alors que nous, ils me disent, j'imagine que c'est pas... Bah, j'ai dit, non, d'habitude, c'était le bazar, mais j'avais trop honte. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté, en fait, où on veut cacher pour faire en sorte que ce soit bien. Et juste rebondir ce que vous disiez, j'ai l'impression qu'il y a un peu, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'on ouais. parlait des réseaux sociaux, il y a un peu les deux extrêmes. C'est-à-dire que soit c'est les parents parfaits, où, voilà, ouais. où tout est beau, la maman est habillée comme la petite fille, enfin bon, bref. Ou on est du côté parents indignes, où, voilà, où c'est sous forme d'humour souvent.
C'est
mais,
presque ouais. too much, hein, effectivement.
Bah, c'est ça, en fait, c'est souvent...
C'est gênant.
Bah oui, en fait, c'est toujours ces deux extrêmes, alors qu'en fait... alors, ce que je vais dire, ne veut rien dire, mes parents dans la norme, normal, j'ai horreur de ce terme, mais vous voyez, enfin voilà, bah, y a un jour ça va, un jour sans, et puis c'est comme ça. Et
un
ça,
jour on s'apprête, un jour beaucoup moins.
Ouais,
quoi.
Voilà, un jour c'est propre chez nous, un autre jour on marche et ça croustille, et c'est normal. Et ça, je trouve, et c'est pas évident, voilà, de trouver des points de repère comme ça où on se retrouve.
Peut-être qu'il faut pas, en fait. Hein. Peut-être que c'est ça, là, Juliette, tu disais tout à l'heure que hein, c'est ça, Juliette.
Il faut sortir de l'image, du règne de l'image, ça c'est obligatoire
c'est
de changer
hein.
de société, sinon je veux dire on va dans le mur, on ouais. n'est pas obligé de correspondre à des images qui ne représentent rien, qui sont des fantasmes collectifs, mais qui n'ont aucune valeur en termes de rien du tout, de modèle. Le chemin, c'est d'être nous-mêmes et d'accepter notre imperfection, notre ambivalence. Tout ce qu'on est en tant qu'être humain et de le faire le mieux possible.
Ouais. Et est-ce que par exemple, alors je sais que c'est votre métier en même temps, vous êtes psychopraticienne, vous recevez justement des personnes qui commencent à prendre conscience, par exemple, hein, de cette surcharge mentale dont on parle tellement aujourd'hui, Juliette Allais, vous le savez comme moi. C'est la première étape, c'est quand même, vous disiez, d'avoir un entourage d'en parler, c'est d'en parler.
Oui.
D'en parler, de ça.
D'en parler, d'oser.
Et de ne pas avoir honte, parce que souvent on peut avoir honte
ouais,
d'être en burn-out parental.
Ben oui, bien sûr, il y a la honte ouais. pas très loin. C'est tout un système, cette histoire. Hein. On n'a pas le droit de parler, parce que sinon on va se faire mal voir. Donc il y a le règne de l'image, et puis on veut faire autrement que nos parents. Donc tout ça, c'est une construction multiple où il faut dégonfler les ballons les uns après les autres pour arriver à être dans... tout à fait une autre représentation de nous-mêmes en tant que parents, des besoins de l'enfant, de comprendre ce dont on a besoin, ce dont lui a besoin, et de sortir des injonctions sociétales, parentales, inconscientes. C'est un vrai cheminement. C'est du dépouillement, je pense, à un moment. Il faut se dépouiller de tout ce qui nous encombre la tête, et puis pour aller vers quelque chose de plus simple, et de plus de moins photogénique, de plus ordinaire.
Je garderai cette phrase en tête.
Plus ordinaire.
Précieusement, Juliette.
Vous voyez.
En fait, quand on se plaint, vous savez, on a l'impression que c'est un peu le concours, quoi. Toujours là, non mais vraiment terrain. Je pense que vous êtes d'accord, Anne,
je
devant
pense
l'école.
Que je vais être d'accord.
On
oui.
est d'accord.
Oui.
Donc vous plaignez, puis il y a l'autre maman qui dit ah non mais genre c'est encore pire ce que je vis, et puis l'autre ah non mais attendez les filles, vous avez rien vu ma vie, et c'est encore pire que la vôtre. Ça c'est oui. C'est bizarre quoi, d'être comme ça un peu, non, Juliette?
Oui, c'est bizarre, mais là, il faut se poser des questions.
Il y a un problème, il faut vous poser des questions sur là, votre vraiment... entourage.
Oui.
Je crois que c'est
ouais.
quelle conclusion.
Mais on a l'impression qu'on n'existe que parce qu'on se plaint par moments quand on est à la sortie de l'école. Il y a un problème.
Il
bah,
y a les
même.
Deux. Moi, je dirais il y a les deux quand même.
On va être reconnu par quelqu'un.
Que moi, j'ai connu les sorties d'école parce que maintenant, moi, ils sont au collège. Donc, du coup, là, on ne voit
c'est
plus les parents.
Débat,
mais
là.
Voilà,
ouais.
là, on ne voit plus les parents. Mais par contre, sortie d'école, moi, j'ai connu l'inverse. C'est-à-dire de moi, j'arrivais en train de me plaindre. Et puis, finalement, on me retournait. Ah ben non, mais moi, pas du tout. Ah, mais moi, ça va.
Ah,
mais
ah moi, oui, vous aviez ça,
oui.
ça à l'époque.
Ah bah oui,
comme retour.
Eh ouais, moi j'avais plutôt l'inverse.
Bah, les tendances changent, hein, je pense. Maintenant,
oui,
c'est on est parti dans l'autre sens.
C'est ça. Oui.
C'est vraiment là.
C'est toujours une question
drôle.
De balancier,
enfin,
on va de l'un à l'autre.
Ouais.
Oui.
Ah ouais.
Souvent.
Oui, donc
oui.
là, c'est la compète dans le. Vous voyez.
La compète dans le je vais pas bien, et donc c'est moi c'est pire. Ce qui n'aide pas non plus, hein, ceci.
En fait, mais c'est ce que je voulais dire, c'est oui, que oui. ça n'aide pas non plus. Non, parce que je faisais un lien, ce que je disais précédemment, c'est bien d'en parler. Vous me disiez, effectivement, la première étape, c'est de commencer à conscientiser, d'en parler. Mais il ne faut pas s'arrêter non plus là, quoi. Il faut...
Ah bah, puis c'est surtout comment on écoute. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Vous sauriez le dire mieux que moi, mais c'est la qualité de l'écoute, dans ce cas-là. Parce que là, effectivement, si on...
Vous avez pris votre téléphone, vous avez appelé un psy, c'est ça que vous avez fait au départ ?
Oui. Moi, après, quand je me suis rendu compte, quand je suis allée jusqu'au bout et que j'ai craqué et que donc, vraiment, le burn-out a été avéré, oui, après, j'ai fait appel à quelqu'un pour me reconstruire et comprendre.
Et votre mari là-dedans ? On n'a pas beaucoup parlé.
Mon mari, alors en fait, pour la petite anecdote, qui n'est pas une anecdote parce que c'est important, il est dans le milieu médical. Donc il m'a vu sombrer. Voilà, il m'a vu sombrer. Et,
sans pouvoir rien faire, c'est ça ?
Sans pouvoir rien faire et dans une position délicate, puisque entre deux, et donc en train de me dire, voilà, là tu vas pas bien et là ça serait bien. Et en même temps, c'est horrible parce que s'il regarde, je vais me faire taper sur les doigts. Et en même temps, pas forcément de solution qui me convenait. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, si je me disais, les mercredis, je suis fatiguée, etc. T'as qu'à aller laisser à la garderie. Et moi, ça me convenait pas. Et maintenant, avec du recul, je me dis, oui, effectivement, de temps en temps, j'aurais pu les laisser.
Ouais.
Mais à l'époque, j'étais tellement prise dans ma culpabilité, dans mon rôle parfait, ça ne me convenait pas. Alors je ne sais pas, le pauvre, ce qu'il aurait pu me proposer. Peut-être que j'étais dans un tel état, je ne l'aurais pas écouté, quoi qu'il arrive. Hein, je veux pas. Mais
il n'a pas vécu le burn-out parental.
Non. Il y a que moi qui en ai fait un. Oui, j'en ai fait un pour deux, moi.
Et quand c'est les deux en même temps, Juliette, comment, c'est pas si courant que ça. C'est à peine, c'est 5%. Hein. 5%, oui. C'est pas énorme non plus.
Je pense que c'est
d'accord.
Pas courant. C'est pas courant. Mais
c'est pas courant. Quand ils sont dépassés tous les deux. Alors ils se séparent parfois. Oui. Parfois ils se séparent.
Oui, mais il faut qu'ils se fassent aider. Il faut se faire aider dans ces cas-là.
Ouais.
Appeler un spécialiste, aller faire quelques séances, être accueilli. Être accueilli, être compris et dédramatiser la situation aussi. C'est juste un passage. Ça ira mieux après si on prend les bonnes décisions, si on peut s'écouter, écouter nos besoins, se retrouver.
Donc tout d'autant ça, plus que c'est quand même assez normal aussi d'être un petit peu dans l'incompréhension tout au début, en tout cas peut-être pas les trois premières années de l'enfant, de voilà, les trois premières années du premier enfant, parce que c'est souvent là où le bas blesse, le premier enfant naît et paf, patatrac, le couple éclate en fait, avant les deux ans de l'enfant. Je crois que les statistiques sont redoutables, mais prouve bien qu'il y a un souci aussi de peut-être de communication, de verbalisation entre les époux.
Ça rejoue la question des places. Chacun revit quand on a des enfants, on revit la place qu'on avait en tant qu'enfant, nous-mêmes avec nos propres parents. Donc ça met en jeu beaucoup beaucoup de choses, et souvent les parents sont ignorants de ça, encore une fois. Donc ils traversent tout ça sans savoir que tout ça c'est normal de ressentir ces choses un peu étranges, un peu bizarres. Et comme on peut pas mettre de mots, ça clash entre les partenaires. C'est difficile de savoir pourquoi on est inquiet, pourquoi on sait pas faire. Peut-être que notre mari nous demande d'être la mère parfaite, donc mais ça correspond à rien pour nous. Peut-être qu'on lui demande d'être un père parfait qu'on n'a pas eu. Donc il y a plein d'endroits possibles, en tout cas, où on peut dénouer tous ces liens qui nous entravent pour vivre quelque chose de plus facile, de plus fluide et de plus léger.
Ouais. Est-ce que votre couple a pris cher ? C'est intéressant, effectivement.
Non, pas du tout. Ça a pas eu d'impact sur notre couple, heureusement. Voilà. C'est vrai qu'il a été là, même si par moment,
c'était difficile, quoi.
Voilà, par moment, il m'a vu sombrer. Puis c'est pernicieux aussi, hein, le burn-out. Hein. Attention, c'est que c'est un épuisement qui se construit petit à petit. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Donc, on voit la personne sombrer, mais moi, vous voyez, je pense que ça a commencé à la naissance de mon premier, et après mon deuxième. Donc, il est né en 2011, et j'ai fait mon burn-out fin 2019.
Ah oui, d'accord.
Ah bah oui. Et donc, vous dire quand est-ce que ça a commencé, je pense que c'est impossible
de
dire.
C'est des années
d'épuisement. Bah oui, c'est ça. Mais c'est ça, le burn-out. Enfin, là, je me tourne vers la spécialiste, mais le burn-out, c'est vraiment, on se consume, d'où le nom de burn-out, on se consume. Ouais. Petit à petit. Donc, on ne se rend pas compte. Puis, comme vous disiez tout à l'heure, quand on disait vous vous réveillez fatigué. Mais quand est-ce qu'on n'est pas fatigué quand on est maman ? Moi, je ne sais pas. Enfin, voilà, on est un peu fatigué. Donc, on se dit,
degrés,
c'est normal.
Il y a des degrés, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Mais ça vient.
Est triste, là,
ouais, c'est voilà. Ça. Voilà. Après, on bascule vers des choses qui, là, on se dit, je me suis rendu compte. Alors, avant de craquer, de faire la crise d'angoisse dont je vous parlais, là où vraiment je me suis dit, là, OK, c'est plus normal. Et j'ai commencé à aller consulter à ce moment-là. C'est la rentrée de septembre 2019, où mes enfants rentrent de l'école et moi, je vais dans la salle de bain et je vais pleurer. Voilà, je m'enferme et je pleure. Et là, je me dis, OK, là, je crois que j'ai atteint le fond. Alors, je n'avais pas encore atteint totalement le fond, puisque après, j'ai fait ma crise d'angoisse. Mais là, ouais, je me suis dit, là, il y a un souci. Un souci.
Parce que c'est vrai que quand on est deux, on se dit, bon, bah, je vais en parler à... Je vais pleurer dans les bras de mon conjoint.
Mais même si j'avais pleuré dans les bras de mon conjoint, en fait, c'était pas normal
vous
que
vous
je pleure.
Vous incomprise de toute façon
Incomprise, ou en tout cas, les solutions qu'on me proposait, voilà, en face, ça me convenait pas. Et puis je pense que j'étais enfermée dans mon truc, c'est un peu ce qu'on disait, c'est le côté perfectionniste, un peu bon élève et tout. Donc moi j'y allais, non, ça va aller. Et
puis, je vais gérer.
Je vais pas m'arrêter, ça va aller. Enfin, c'est pas possible que ça n'aille pas. J'ai que deux enfants, c'est pas possible que ça n'aille pas. Je suis que prof, hein, voyez, toutes ces choses-là. Et donc voilà, mais quand je me suis retrouvée à pleurer le jour de la rentrée, j'ai fait waouh, ça va être dur.
Mais c'est vrai qu'il y a un peu le mythe aussi de la warrior, quoi. Alors c'est vrai que c'est peut-être, moi je suis pas du tout, enfin, je suis quand même un peu féministe, hein, faut pas croire que voilà, ce qu'on va prendre pour l'énorme ringarde réac, pas du tout. C'est juste que effectivement c'est peut-être Juliette Allais l'un des effets un peu pervers. C'est normal, c'est comme ça l'histoire, c'est que voilà, on change de tendance, on apprend de ses erreurs, on évolue, on progresse, et tant mieux. Mais c'est vrai que la génération des premières féministes, qui étaient nos grand-mères et peut-être nos mères, on générait chez nous une espèce d'évidence qu'il fallait être une super nana qui gère tout. Ça, c'est peut-être un petit effet.
C'est le retour de Balancier, c'est le pendant de la femme au foyer. C'est la femme parfaite, Catwoman, enfin, toutes sortes de
mythes.
De mythes. Ouais. Et donc, c'est bien d'aller dans la bonne direction et c'est bien de transformer nos places de femmes. Mais il ne faut pas pour autant répondre aux diktats de la société ou aux diktats d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi ce qui est bon pour nous, individuellement, chacune, et pas essayer de ressembler à un modèle, surtout. C'est trouver
ça, c'est ça, hein, notre
modèles.
Travers,
oui.
Bien souvent. De
oui, vraiment, c'est qu'il faut se construire.
On est un peu perdu, alors.
Il faut se construire en s'alignant sur qui on est, nous. Et savoir, et donc le chercher, aller à la rencontre de nous, de notre intériorité.
Ouais.
Et ça, c'est pas quelque chose qui est facile, parce que c'est pas du tout encouragé par la société. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut pas le faire, hein, mais on l'apprend pas à l'école, on apprend ça nulle part.
Moi, je suis assez d'accord pour l'école des parents. Hein.
Oui.
Je serais votre première inscrite, Juliette Allais.
J'aimerais bien l'école des parents, l'école du couple aussi.
Il ouais.
Y a plein de choses.
Il y a du travail.
Et il suffit de faire de la pédagogie.
Ouais.
C'est tout.
L'école du bon sens.
Oui, parce que souvent, c'est du bon sens. Hein. C'est pas des choses compliquées, hein, en réalité.
Ouais.
C'est pour ça que c'est quand même, il y a un espoir.
Bien, merci pour cette touche positive. Merci, mesdames. Juliette Allais, merci infiniment. Vous qui êtes psychopraticienne. Donc, tous vos ouvrages sont à découvrir, bien évidemment, sur Internet, évidemment, et aussi dans les bonnes librairies. Guérir des blessures familiales, tout simplement, chez J'ai lu. Merci, Juliette Allais. Merci infiniment.
Beaucoup.
Et Anne Beson, merci également. Le club des parents presque au bout du rouleau à découvrir. Merci infiniment d'avoir été présentes toutes les deux. Et j'espère que ça aidera surtout de nombreux parents, nos nombreuses mamans en particulier, à qui on pense avant ces vacances
Très
de Noël
fort.
Qui approchent.
Oui.
Grosse pression. Bonne soirée.